Veuillez vous lever, s'il vous plaît, le tribunal.
Alors, nous arrivons dans les geôles du palais de justice de Marseille. Moi, je suis Edjazi Nasser, donc je suis enquêteur à l'APCARS. Voilà, donc une association socio-judiciaire. Et j'y travaille depuis 1997. Donc, on va rencontrer les personnes qui ont été déférées ce jour, dans le cadre de la comparution immédiate notamment.
Ça n'a rien à voir avec la procédure, mais je ne pourrais pas avoir une cigarette.
Et non, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Je sais que c'est compliqué.
Alors, je vais demander.
La plupart des gens que nous rencontrons, c'est la première question qu'ils nous posent. Est-ce que je peux fumer une cigarette? Non, on ne peut pas fumer dans les geôles du tribunal de Marseille, malheureusement pour vous. Alors cet après-midi, vous allez passer en comparution immédiate. Par rapport à ce que vous allez pouvoir me dire de votre situation, de votre parcours, il va falloir que je puisse contacter quelqu'un à l'extérieur qui puisse me confirmer ce que vous allez me dire. Par exemple, vous avez un domicile fixe, j'imagine.
Non. Je suis sans domicile fixe.
D'accord.
J'ai une copine. Depuis hier, je suis là en garde à vue, j'ai pas pu l'appeler.
Donc, personne n'est informé que vous êtes ici.
Informé que je suis en garde à vue.
Alors, vous n'avez pas vos parents ici?
Ma mère, elle est décédée et mon père, il vit pas ici à Marseille. Je suis genre fâché avec lui parce que ma belle-mère, elle m'a mis à la rue. Lui, il n'a jamais essayé de me récupérer. Donc,
que votre père ne s'occupe pas de vous?
Je suis livré à moi-même, monsieur.
D'accord.
Et ça fait plus de 3 ans.
Donc ça fait 3 ans que vous êtes dans cette situation un peu de galère.
Trois ans que je suis livré à moi-même, seul, à essayer de trouver un travail. Tout ça.
D'accord.
Pendant certains temps, j'ai trouvé un travail. Là, hier, je n'avais pas de travail. Je ne trouvais pas de moyen pour faire de l'argent. Je vous dis la vérité. Et voilà. Je ne voulais pas dormir comme avant-hier sous un pont. J'ai dit, voilà, je vais aller travailler dans un quartier. Même si ça m'a forcé, je ne voulais pas le dire, mais voilà, maintenant je le dis, ça m'a forcé. Et voilà, je voulais faire mes 100 euros pour aller me payer mon hôtel et me payer à manger, parce que voilà, je ne mange pas bien, je ne dors pas bien. Et voilà, j'en ai marre, quoi.
Le fait que vous soyez sans domicile fixe, ça veut dire, quand la nuit tombe, vous ne savez pas où vous allez dormir.
Voilà. C'est ça la réalité de votre situation.
Moi, quand la nuit tombe, des fois, je me retrouve sous les ponts à Saint-Charles, sous les ponts là-bas. Des fois, j'essaie de m'abriter un peu au métro. Et le matin, à 4h du matin ou 5h, quand le bus commence, eh bien, je monte dans les bus histoire de faire des tours ou dans le métro pour me réchauffer.
Est-ce que vous avez quand même une domiciliation administrative?
Non.
Même pas.
Même pas.
Parce que tout à l'heure, vous disiez, Anna, bon, j'essaye de chercher du travail, etc. Mais à partir de quelle adresse? C'est-à-dire que vous n'avez même pas de domiciliation.
La dernière domiciliation que j'ai eue, c'était la CCAS de Perrier.
Et cette domiciliation, elle n'est plus d'actualité. Pourquoi vous n'êtes pas refait domicilier?
Parce que, je vous explique, entre-temps, j'ai eu ma mère qui est décédée. J'ai dû partir au Portugal pour l'enterrer et tout ça. Je suis revenu, je me sentais pas très bien. Je voulais pas revenir à Marseille pour pas faire de conneries. Je suis resté jusqu'en décembre chez ma grand-mère. Et quand je suis revenu, voilà.
Quel est votre niveau scolaire?
J'ai un CAP cuisine.
Vous êtes titulaire d'un CAP cuisine?
J'ai travaillé.
Ouais.
J'ai travaillé dans plusieurs restaurants à La Ciotat. Ils ont fait tout le port de La Ciotat.
Compte tenu de vos expériences de travail, est-ce que ça ne vous a pas donné droit à une ouverture, à une allocation au chômage?
Ils m'ont dit que je n'ai pas assez travaillé.
Voilà.
D'accord. Ils m'ont dit que je n'ai pas cumulé assez d'heures pour le chômage. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'avoir du travail, de ne pas faire de conneries, parce que voilà, c'est pas une vie, j'aime pas faire des bêtises, mais... Après, voilà, je vous dis la vérité, j'en avais marre. Alors, de dormir dans le froid, sous la pluie.
Est-ce que c'est votre première bêtise, là, où vous avez des antécédents judiciaires?
J'ai des petits antécédents, mais c'est recette de scooter volé, parce que j'étais sur un scooter que quelqu'un avait volé, que je ne savais pas qu'il était volé.
Ouais.
Je suis passé, ils m'ont dit, c'est bon, c'est rien, nanani. Après, je me suis fait attraper avec de la consommation personnelle.
De résine de cannabis?
Oui.
Ouais. Vous n'avez jamais été incarcéré?
Jamais.
D'accord. Vous disiez tout à l'heure qu'on vous avait un peu forcé à faire ce que vous avez fait. Vous pouvez apporter un peu des précisions
En fait, une fois j'étais en ville, il y a un mec, il était en moto. Il était en scooter, 50. Moi, j'ai vu qu'il était ivre. Et le monsieur, en fait, à tout prix, voulait que je le ramène chez lui. Donc moi, je lui ai dit non, je te ramène pas et tout ça. Il a voulu prendre son scooter. Et j'ai vu qu'il allait tomber. De là, je lui ai dit, viens, je te ramène chez toi. En le ramenant chez lui, j'ai glissé avec son scooter. Donc je lui ai cassé deux, trois trucs. Je lui ai dit, j'ai glissé, j'ai fait une erreur. Ton scooter, je vais te le rembourser. Il m'a dit non, il faut que tu me le rembourses maintenant, je sais pas quoi et tout. De là, il est parti et on s'est recroisé. Et ce mec, il m'a dit dimanche, ouais, viens travailler et tout ça pour rembourser mon scooter. Je lui ai dit non, moi, je ne viendrai pas travailler pour rembourser ton scooter. J'ai fait une erreur, je te les paierai quand j'aurai les sous, mais voilà. À ce moment-là, il m'a dit, bon, tu veux pas me payer, je vais te sortir la calache. Moi, j'ai fait quoi? Je suis parti. Je suis parti et je suis revenu 2 jours après pour aller travailler, donc hier, pour lui payer, pour pas mourir surtout, parce que je tiens à ma vie, même si je suis un SDF, mais je tiens à ma vie. Il est parti, il m'a mis, il m'a fait jobber.
C'est pas un emploi déclaré.
D'accord.
Le charbon.
Ah, quand même pas, monsieur, quand même pas. Oh.
Je voulais faire un peu d'humour, c'est pour ça. Le charbon, c'est le point de vente.
Le point stup, comme ils diraient les policiers. J'ai fait même pas 3-4 heures et la police, elle m'a attrapé.
Je vais m'autoriser à vous poser encore des questions. Quelle est votre date de naissance?
Le 9 septembre 1993.
9 septembre 1993. Vous êtes né où?
À Marseille.
À Marseille. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez une copine,
oui.
C'est ça? À Marseille.
Oui. Et je crois qu'elle est enceinte. C'est un truc qui pourra me faire avoir un petit sourire, mais voilà.
Et elle vit où, votre copine?
Elle vit chez sa mère.
Et sa mère est au courant de cette relation? Vous la connaissez, sa mère?
Oui.
Et elle ne peut pas vous héberger?
C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est que c'est une famille de Comoriennes, je vais vous dire la vérité.
Ouais.
C'est pas comme ça, c'est pas facile, c'est comme c'est les musulmans.
Donc,
une fille qui dort chez sa mère, il ne peut pas prendre un mec et le faire dormir chez eux.
Ça complique un peu votre relation un petit peu avec elle. C'est un projet commun d'être parent avec
oui.
votre copine ou c'est un accident?
C'est un projet commun parce que moi comme elle, genre moi, elle le sait dans la situation que je suis, elle veut que je... Voilà, que...
Justement, j'allais un peu rebondir par rapport à votre situation. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir une responsabilité supplémentaire? Votre copine habite chez sa maman, vous êtes dans une situation très précaire et très très délicate. Est-ce que cet enfant ne va pas accentuer un peu vos difficultés de vie?
Pour moi, il me reste 6 à 7 mois pour me trouver un travail, un logement et pour accueillir le petit. J'ai pas d'autre solution dans ma tête. Parce que ça fait plus de 3 ans que je le veux, ce petit. Si après, je vous dis la vérité, si ce soir je rentre en prison,
ouais.
elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Le petit, elle avorte.
Mais elle est déjà à 2-3 mois.
Je sais, mais elle va trouver une solution pour l'enlever, le petit.
Mais vous saviez que vous preniez des risques aussi en faisant ça.
Oui, monsieur, je vous dis la vérité. Un mec qui dort sous les ponts, qui mange pas bien toute la journée, au bout d'un moment, il va essayer de trouver une solution.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet après-midi?
Pour moi, la prison, il n'y a pas d'autre solution.
Alors que vous disiez en amont, moi, ma crainte majeure, c'est de me retrouver en prison cet après-midi.
Voilà, là, je sais qu'avec tout ce qui m'a rattrapé, il ne va pas me laisser de chance. Je le sais, je le sens.
Il s'agit, pour vous, cet après-midi, d'expliquer les choses. Hein. Partez pas sur le principe, par exemple, comme beaucoup d'entre vous, ben, je ne vais pas m'expliquer parce que le tribunal ne va pas écouter, parce que le tribunal ne va pas
qu'il soit...
prendre en compte ce que je vais dire. Dites ce que vous avez à dire.
Je dirais, mais j'espère qu'il va m'écouter, qu'il va être clément. J'espère.
J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je contacte votre petite amie?
Ça vous dérange pas?
Ben non, je vous pose la question.
Je voudrais juste que vous l'appelez, que ce soit devant moi que je lui dise un petit je t'aime.
Alors, je peux pas l'appeler devant vous. Je vais l'appeler de mon bureau et je peux pas vous laisser lui parler. Je peux lui laisser un message de votre part si vous voulez.
Ouais, vous lui dites que je l'aime fort et que dès que je sors, je l'appelle direct. Si je sors, si elle voit que je l'appelle pas à minuit, c'est que je suis en prison.